Chapitre 13. Eudoxie, étoile. Tout à coup, un appel se fit entendre. Les acteurs, rassemblement. Et M. Bougnat d'un côté, Mme Bougnat de l'autre, comme les bergers d'un troupeau épars, s'affairaient dans le hall, dans la serre, au buffet, pour chercher Févré l'introuvable et la mystérieuse Eudoxie, et Pierre et Lucette enfin réunis, bien tranquillement assis au coin d'une petite oasis de palmiers et de fougères. « On a besoin de vous, c'est important. Réunion dans mon cabinet. Rien que les acteurs. Une communication intéressante. »« Qu'est-ce encore ?» demanda Pierre. « Ne pourra-t-on bientôt rentrer? Il est plus de minuit. Tu es fatiguée, Lucette ?»«
Moi, pas du tout, depuis que je t'ai retrouvée. » J'ai cru que ces dames allaient te partager en morceaux. Eudoxie a eu un succès de scène, mais toi, tu as eu un succès de société. Que tu partages, ma chérie, car n'ai-je pas eu toutes les peines du monde à t'arracher aux admirateurs qui t'accaparaient? C'est égal, quand ce sera fini, je dirai ouf. Encore une séance dans le cabinet de M. Bougnat. Pour les adieux, sans doute, et pour nous faire part du résultat financier. Quelques minutes plus tard, la petite troupe était rassemblée dans le lieu auguste, meublée d'empires solennels, de bronze et de cuir rouge, de bustes d'empereurs romains, d'écritoires en argent, d'un bureau ministre à tiroirs absolument vides si on les avait ouverts, et de buvards en maroquin tout à fait vierges de taches d'encre. Car M. Bougnat avait un cabinet de travail où il ne travaillait jamais. Il faisait ses affaires de charbon à côté de ses tas de charbon. Chacun s'assit sur les fauteuils et les banquettes de cuir. Lucette et Madame Courtois, les deux seules clairvoyantes de la petite société, regardaient avec quelque surprise un monsieur en costume de soirée du dernier chic, très grand, prodigieusement maigre, agité de mouvements nerveux ou impatients. Il faisait craquer ses doigts, ce qui était horrible, et sa tête allait continuellement de droite à gauche par saccades. « Présentez-moi, » fit-il d'une voix sèche et rapide, se tournant tout d'une pièce vers M. Bougnat. Celui-ci, qui n'avait pas fini d'arranger son monde en demi-cercle, s'arrêta un peu interdit. « Mettez de la vitesse, » continua le singulier monsieur. « Quatrième vitesse, si vous pouvez. Je n'ai que 20 minutes à moi. J'ai un rendez-vous à 24h55 précises. » « Bien, bien !» fit M. Bougnat, qui se plaça et se dressa derrière son bureau ministre. « Chers amis, mesdames les actrices et messieurs les acteurs, j'ai le plaisir de vous présenter M. Aristide Vélox, représentant de la société Le Film Français. Il a une proposition à vous faire. » Avec un geste rond et engageant, M. Bougnat indiqua que la parole était à M. Aristide Vélox. « Mesdames, messieurs, » fit celui-ci en se pliant tout à coup au milieu du corps et en se redressant presque dans la même seconde, ce qui était sa façon de saluer. « La pièce que je viens de voir représenter se prête au film, sans discussion. À qui appartient la pièce? Vous l'avez créée entre tous, elle appartient à vous tous. Pas d'opinion contraire? Non, il ne peut pas y avoir d'opinion contraire. » La société Le Film Français vous achète le droit de filmer cette pièce pour les cinémas. Vous acceptez, cela va sans dire. Elle vous offre le 5% de toutes les recettes de la pièce. Vous acceptez, cela est évident. Pour le film, nous retenons le soldat aveugle et la jeune bonne. Les autres rôles seront tenus par des acteurs fournis par nous. Les deux que nous retenons toucheront un cachet de 500 francs par séance de pause. Ça vous va ? Les papiers sont prêts. Vous n'aurez plus qu'à signer. Il me reste 16 minutes à consacrer à cette affaire. » Il s'assit, toujours par le même système de se casser en deux subitement. Un silence ahuri succéda à ce surprenant discours. Pierre fut le premier à parler. « Quant à moi, dit-il, je me récuse. Veuillez ne pas compter sur moi pour figurer dans le film. » « Parfaitement, je m'y attendais. Comme il faut un aveugle joli garçon pour ce rôle, nous vous aurions donné la préférence. Mais M. Courtois acceptera de vous remplacer. Il est joli garçon aussi et aveugle. C'est tout ce qu'il nous faut. Vous acceptez, M. Courtois ? Pourquoi pas, si vraiment M. Royer refuse. Comme je chante tous les soirs au Palais d'Or, ça ne me gêne pas de figurer aussi sur l'écran. »
Trop de mots, fit M. Vélox. Il me reste 13 minutes 10 secondes, et je n'ai pas la réponse de Mademoiselle Eudoxie Voitoux.
J'accepte, j'accepte, s'écria-t-elle d'une voix qui vibra de joie et d'orgueil. Moi, une étoile de cinéma, c'est tout ce que je rêvais.
Ensuite, il y aura peut-être d'autres rôles pour vous, mademoiselle, à cause de votre physique particulier.
Eudoxie devint rouge à ce mot, jeta un coup d'œil vers Février et ne dit plus rien.
Le marché est-il conclu quant à la pièce? Vos réflexions sont finies, mesdames et messieurs. Les opérations du film commenceront demain matin. Il n'y a pas une minute à perdre. La pièce devra être au programme la semaine prochaine, pendant que les aveugles de guerre sont encore à la mode. Les modes changent, messieurs. Dans 15 jours, on dira encore « Ils sont touchants, ces braves ». Dans 1 mois, on dira « Ils ont leur pension ». Dans 6 mois, on dira « Ils ont fait une bonne affaire », compléta Courtois avec un rire qui n'était pas sans amertume.
« Parfaitement. Vous voyez la nécessité de se hâter pendant que dure votre vogue. J'ai encore 9 minutes à votre disposition. Voulez-vous signer ?»«
Vous nous permettrez bien, dit Pierre, de lire le contrat et de causer entre nous pendant 5 minutes. »
« Dans ce cas, je me retire. Causez jusqu'à l'aube si vous voulez. À New York, 5 minutes 8 secondes auraient suffi pour tout. Mais Paris n'est pas encore à la hauteur. Paris s'est très bien tenu pendant la guerre, mais depuis la paix, il ne suit pas le mouvement. Je parle trop. Messieurs, mesdames, je vous salue. Si les papiers exigés ne sont pas sur ce bureau demain matin à 8 heures, où je les ferai prendre, ainsi que Mademoiselle Eudoxie et M. Courtois, je retire toutes mes propositions. J'ai bien l'honneur. »
Il se déplia en 2 mouvements et en 3 enjambées de compas, il se trouva à la porte et disparut. Ce ne fut qu'au bout d'un moment qu'on retrouva du souffle et qu'on se mit à rire.
« Allons, dit Courtois, tâchons d'être un peu américains et de nous décider en 15 minutes. Monsieur Bougnat serait-il assez obligeant pour nous lire le contrat et pour présider ensuite la discussion ? C'est lui, sans doute, qui avait invité ce monsieur Vélox.
Pas du tout. Il est venu sans invitation, en grande tenue de soirée, comme vous avez vu, et avec une carte du film français. Il m'a dit que le Palais d'Or, où chante monsieur Courtois, l'avait informé qu'une pièce intéressante se jouait ce soir au château Pompadour. Il a ajouté « Ma devise est celle de César. Je ne sais si je répète bien. Vexi, mixi, taxi. » À peu près ça.
Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, rétablit Courtois qui avait de la lecture. En latin, ça se dit veni, vidi, vici.
Exactement, avec un veston smoking comme le sien et un gardenia à la boutonnière, on entre partout, reprit M. Bougnat.
Et Mme Bougnat poursuivit la narration.
Il a bu un verre de champagne et il m'a dit. Vous êtes en bon rapport avec la veuve Cliquot. J'ai répondu que je ne connaissais pas cette personne dont le nom me paraissait assez vulgaire. Mais mon mari m'a expliqué que c'est une haute marque de champagne. Alors, j'ai compris le compliment.
C'est donc à toi, Courtois, que nous devons la proposition de M. Vélox, demanda Pierre. Tu avais parlé de notre pièce à ton directeur.
En effet, et j'avais même dit que de tes aventures en Suisse et en France, telles que je les connais par un livre « Les yeux clos » et par le volume suivant « Dans l'ombre », on tirerait un film qui aurait du succès. La scène, par exemple, où Mademoiselle Lucette se balance à un bout de corde au-dessus de l'abîme, ça, et puis l'épisode Matignon d'un bout à l'autre, c'est tout à fait du bon cinéma. Mais les minutes passent, il nous en reste 9 et demie, fit Courtois en tâtant dans son gousset sa montre braille.
Monsieur Bougnat, nous écoutons la lecture.
Ce ne fut pas long. Le contrat était court et net. Les conditions paraissaient magnifiques. Une sorte de stupeur, moitié incrédule, moitié éblouie, empêchait les jeunes auteurs de la pièce d'articuler leur joie.
Tout de même, on n'a pas tous les mêmes droits, dit Février. Monsieur et Madame Royat et Mademoiselle Eudoxie ont composé la pièce. Nous l'avons jouée comme on nous a fait nos rôles.
« Ça, c'est indiscutable, » dit Bourgin, un peu désappointé tout de même. Et ses camarades l'appuyèrent avec moins de chaleur assurément qu'ils n'en avaient mise à accepter le partage. « Non, je ne l'entends pas ainsi, » prononça Pierre. « Nous sommes associés, tous au même rang. Il n'aurait pas servi à grand-chose de composer la pièce si nous n'avions pas eu des acteurs pour la jouer. C'est donc entendu, camarades, par égal au bénéfice. » « Je crois que nous pouvons signer le contrat. »«
Et n'oubliez pas, fit Eudoxie, que demain matin à 8 heures, les papiers doivent être sur le bureau, ainsi que M. Courtois et Mlle Eudoxie, pour être emportés en même temps. »«
Bon Dieu, madame, comment allez-vous faire votre ménage? Qui est-ce qui fera la cuisine pour M. Pierre ?»
C'est bien ce que Lucette se demandait aussi depuis la minute où Eudoxie était montée parmi les étoiles.
« Bah, tout s'arrangera, » dit Pierre. « Ne vous en faites pas, Eudoxie. »«
Si tu crois qu'elle s'en fait, » murmura Lucette à voix basse. « Elle a la tête absolument tournée. Elle ne pense même plus à Févré. »
Était-ce bien sûr, quand M. Bougnat eut encore annoncé le résultat financier de la représentation, une somme ronde de 1 500 francs à répartir d'après les décisions que la troupe jugerait bon de prendre? Tout le monde se leva et Pierre présentait à leurs hôtes ses remerciements et ceux de ses camarades.
« Ne nous remerciez pas, nous sommes payés. Le matin et la comète parleront de nous demain, » répondit M. Bougnat somptueusement. « Cette soirée est un jalon planté sur la route de la mairie et, qui sait, de la chambre des députés qui mène à tout. » Un flot de sang empourpra son visage, sa voix se fondit dans une émotion. Se voyait-il peut-être président de la République avec Mme Bougnat à ses côtés? L'automobile attendait dans la cour d'honneur au bas du grand perron de marbre pour emmener la compagnie par petits paquets. Mais Pierre et Lucette préférèrent rentrer à pied et Denis Févré, qui habitait tout près de l'usine Gavenard, demanda à Eudoxie de le mener chez lui. Ils partirent donc tous les quatre. La nuit était belle, ils n'allaient pas vite, car Lucette semblait vraiment très fatiguée. Févré commença à parler à voix basse, et sans y penser, Eudoxie ralentit le pas, ce qui mit un intervalle notable entre eux et le premier couple.
« Comme ça, mademoiselle Eudoxie, vous voilà dans les grands honneurs, » soupirait Févré.
« Oh, des honneurs? Vous n'avez donc pas compris? Ils auraient de la peine à trouver une personne aussi mal bâtie que moi, voilà pourquoi. » Dans 15 jours, tout Paris et la France et l'Europe saura que je suis de travers. Si vous croyez que ça m'enchante... »
Ça vous a tout de même procuré un amoureux ce soir, hasarda Févré. J'ai tout entendu comme je passais près de vous dans le hall. Vous lui avez répondu, je ne dis ni oui ni non.
Vous avez entendu ça? S'exclama Eudoxie. Eh bien oui, c'est vrai, je lui ai répondu ces mots-là.
Au chauffeur de M. Bougnat.
Comment savez-vous que c'était lui? Une certaine alarme fit trembler la voix d'Eudoxie.
La dame qui était avec moi me l'a dit. Elle a ajouté que les chauffeurs et les mécaniciens tiennent le haut du pavé à présent. Moi, je suis mécanicien, Eudoxie. Si vous vouliez penser un peu à moi, je sais bien que je ne suis pas beau à voir, et de plus...
« Mon petit, » fit Eudoxie l'interrompant, « j'ai tellement de choses dans la tête avec cette histoire de cinéma, ce chauffeur et des mystères dont vous n'avez pas la moindre idée. J'ai un méchant à châtier, comme il est dit dans les châtiments de Victor Hugo. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Et puis, je dois tout préparer dans ma cuisine pour que madame s'y retrouve, pour que mon patron ait à déjeuner. Oh là là, si je n'y prends pas une tuméfaction du cerveau !»
« Qui est ce méchant que vous voulez châtier ?» demanda Févré inquiet. « Est-ce que vous n'allez pas courir des dangers, mademoiselle Eudoxie ?»«
Écoutez, » fit-elle, s'approchant tout près de son oreille, « écoutez, mon petit Denis, pour bien vous prouver que vous avez toute ma confiance et plus que cela, je vous confierai le grand secret. Ça me bouleverse. Figurez-vous que le chauffeur de M. Bougnat est mon ancien patron, Zanzouli. »